L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation.
Quand vous faites du réseautage ou que vous collaborez avec d'autres gestionnaires et que vient le moment d'évoquer vos expériences, je suis presque convaincue, persuadée que vous évitez de raconter des échecs, des erreurs que vous avez vécues professionnellement. C'est peut-être une question d'ego. Oui, peut-être. Un peu aussi à cause de cette conception qu'on cultive tous au sujet de la posture du gestionnaire. Tellement importante. Comment on va être perçu? Et si on célébrait plutôt nos erreurs parce qu'elles nous ont permis d'évoluer, de devenir un gestionnaire encore plus performant? Qu'est-ce que vous en dites? Des pistes vraiment intéressantes qu'on veut emprunter aujourd'hui, qu'on va explorer ensemble à Balada QCS.
Il y a une dimension qui est collective à ça. C'est toujours ensemble qu'on est capable de normaliser ces histoires d'erreurs ou d'échecs. Et donc, comme gestionnaire, par définition, déjà, on gère des gens, des choses. On a une possibilité, une opportunité avec l'autre, avec son employé, avec ses pairs, comme j'exprime dans la première partie, de dire, hey, on va se donner ces règles du jeu-là entre nous, OK? Quand quelqu'un fait quelque chose qui est sous-performant, en retard, quelque chose, ben, on va ensemble s'asseoir puis tirer parti, même si c'est désagréable, même si ça nous coûte de l'argent, même si c'est sujet à se faire taper sur les doigts, on va essayer de tirer un apprentissage de ça.
Alors, toujours bien entouré pour cette série de balados et je vais commencer par aborder le sujet avec M. Gosselin. Comme économiste et consultant, vous accompagnez, Francis, des organisations dans leurs analyses stratégiques un peu partout dans le monde. Vous avez une belle notoriété, une belle connaissance également du sujet. On vous consulte à plusieurs reprises pour différents événements notamment. On peut vous lire, on peut vous entendre comme conférencier sur des thèmes qui touchent les perspectives économiques ou encore le leadership. Mais qu'est-ce qui vous a amené à développer des contenus sur l'apprentissage par l'échec?
Rapidement, là, il y a deux causes, si vous voulez, à cette initiative. Il y a quelques années, on réfléchissait beaucoup aux notions d'innovation, de progression, d'investissement R&D. Il nous a semblé qu'il y avait quand même une différence assez importante entre ce qu'on vit ici au Québec et ce qui se fait dans d'autres pays ailleurs dans le monde où justement cette notion-là d'apprendre de nos erreurs est un petit peu plus normalisée. Et il y a comme une corrélation entre ces pays très innovants et cette culture justement de l'apprentissage. Donc, on est allé un peu à la recherche de ça.
Francis, pouvez-vous nous nommer des pays auxquels vous pensez présentement?
Spontanément, la Californie fait partie évidemment, ce n'est pas un pays, c'est un État, mais ça fait partie des endroits où justement il y a un fort taux d'innovation et où justement c'est dans la culture de lancer son entreprise, de potentiellement qu'elle ne réussisse pas et d'en lancer toute une deuxième puis une troisième jusqu'à ce qu'on trouve un système qui fonctionne. Les pays scandinaves, étrangement, sont aussi très, très, enfin très bons, mais normalisent beaucoup plus rapidement les erreurs et les échecs dans leurs pratiques d'affaires, leurs pratiques institutionnelles et organisationnelles. Donc, c'était des pays là, qu'on avait un peu regardés.
Si on définissait ensemble à quoi on fait référence quand on parle d'erreurs, d'échecs, pour bien situer les gens qui sont à l'écoute.
Il y a tout un spectre, hein, puis il y a des auteurs pas mal plus intelligents que moi qui ont travaillé là-dessus. Une professeure à Harvard, là, Amy Edmondson, a élaboré carrément un spectre des causes de l'échec et pour ce faire, elle a dû définir de quoi il était question, qu'on parle à un extrême de tout ce qu'on fait dans la méthode scientifique, qu'on par essai-erreur, on essaie de trouver une molécule qui fonctionne, un avion qui vole, quelque chose comme ça, jusqu'à l'autre extrême du spectre où certains individus se placent dans des postures de déviance, de désobéissance volontaire. Et pour autant, des fois, ça peut donner des échecs, mais aussi des belles choses, des choses qui sont inattendues. Puis entre les deux, il y a tout un spectre de situations d'échecs, comme un manque de compétences qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre la tâche ou trop de travail, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas atteindre l'objectif qui était fixé. Donc, il y a vraiment toute une panoplie, là, toute une typologie de l'échec.
Pour un gestionnaire placé devant une situation d'échec, comment on s'en sort? Comment on peut rebondir, en faire une occasion d'apprentissage?
Ben, il y a deux choses que j'ai envie de dire. Il y a le gestionnaire lui-même qui commet un acte qui amène, qui est une erreur ou qui amène l'échec. Il y a le gestionnaire qui gère des individus qui en commettent également. Donc, pour moi, il y a vraiment deux niveaux là, dans notre réflexion. Donc, le gestionnaire, évidemment, ben, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est avant même que quoi que ce soit survienne, d'instaurer autour de soi, avec son supérieur, avec ses pairs, avec ses employés, cette idée que dans mon périmètre, dans mon organisation, on va essayer des choses, ça se peut que ça ne marche pas. Et ça, dès le jour 1, dès la première journée, en disant ça, puis en instaurant ce climat-là, c'est sûr que quand tôt ou tard, il survient quelque chose, encore une fois, sous-performant, une erreur, un échec, ça va être beaucoup moins grave que si on se donne une espèce d'exigence de perfection, tout va bien aller, tout va bien aller, puis là, inévitablement, quelque chose ne va pas bien. Là, on est beaucoup plus dans une mauvaise posture. Et comme je le disais, ça se traduit aussi dans l'acte de gestion, de dire quand nos employés vont faire une erreur, ben, selon la gravité, évidemment, encore une fois, on va plutôt que d'asséner le blâme, plutôt que d'essayer de chercher un coupable, plutôt que de mettre quelqu'un dehors, on va essayer d'apprendre de ça, on va essayer d'en faire une initiative collective, de dire, voyez, il y a eu cette situation-là, comment est-ce que tous ensemble, on peut éviter que ça survienne de nouveau? Et donc, il y a carrément, comme je disais, un acte de gestion là-dedans.
Donc, en dédouanant au départ, ça peut nous aider à faire face aux erreurs, aux échecs plus facilement, du moins la fameuse transparence qui peut régner au sein d'une équipe ou du côté du gestionnaire qui s'est mis, sans dire dans une imputabilité, mais quand même en démontrant une transparence. Je pense que ça fait en sorte que tout le monde part sur de meilleures bases, peut-être, pour faire face à différents objectifs.
Oui, certainement. Puis si je peux rendre ça très concret, il y a un exemple historique qui est vraiment frappant, là, qui est très, très loin du domaine du scolaire, mais dans la, on pourrait dire, la course vers l'espace, là, il y a comme eu deux philosophies hein, dans les 10-20 dernières années. Celle de la NASA, qui est une philosophie de perfection. On va sur-ingénierer tout ce qu'on développe. On va s'assurer qu'il n'y ait jamais, jamais d'erreur, jamais, jamais de problématique. On va vraiment investir énormément en amont. Et puis, inévitablement, on l'a vu, là, il y a des navettes qui explosent, etc. Et la philosophie alternative, c'était SpaceX, là, l'entreprise qui est en train de prendre tout le terrain. Et quelle est leur posture? C'est inévitablement, ça va échouer. Inévitablement, ça va exploser. Il faut donc faire en sorte que quand ça explose, puisque c'est inévitable, on ait tout le dispositif de capteurs, de senseurs, de caméras, pour aller chercher l'information. Pourquoi? Parce que la fois d'après, on veut apprendre de cette erreur-là pour de plus en plus être capable d'avoir un taux de succès qui est élevé. Et donc, encore une fois, ça dépend juste de la posture initiale qu'on se donne et non pas là, de les gens travaillent-tu fort, travaillent-tu bien. C'est vraiment dans quelle perspective est-ce qu'on développe quelque chose. Et cet exemple-là, dans le domaine de la conquête spatiale, est quand même assez parlant. C'est évidemment ceux et celles chez SpaceX qui ont adopté la posture que c'était inévitable et qu'on allait en apprendre, qui sont en train de gagner là, cette course.
Est-ce que par peur de l'échec ou de l'erreur, certaines personnes perdent leur appétit, cessent de croire, de se fixer des objectifs?
C'est sûr, puis je reviens donc aux racines de cette initiative-là que j'ai lancée il y a une dizaine d'années pour normaliser l'échec et l'erreur dans l'espace public, c'est de dire si le Québec, on veut avoir plus d'intra ou d'entrepreneurs, si on veut avoir plus d'innovateurs, si on veut avoir plus de gens qui ont le courage d'essayer des choses nouvelles, bien, il faut normaliser ce discours-là dans l'espace public. Donc, c'est sûr qu'un individu qui est excessivement craintif d'échouer, bien, il va prendre beaucoup moins de risques, il va essayer beaucoup moins de choses. Et ce qui est particulier, puis c'est drôle de le faire avec des cadres scolaires, c'est qu'échouer, c'est comme ça qu'on apprend. Quand on apprend à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On tombe. Quand on apprend à faire du vélo, qu'est-ce qu'on fait? On perd son équilibre. Tout le long de notre vie, on vit des successions de micro-erreurs, micro-échecs, jusqu'à ce qu'on soit capable de maîtriser quelque chose parfaitement. N'importe quel sportif de haut niveau, n'importe quel auteur, n'importe quel humoriste vous dira, c'est à travers toutes les blagues plates que je finis par avoir des blagues exceptionnelles, mais il faut avoir ce grand nombre d'erreurs, ce grand nombre d'échecs pour réussir à trouver la pépite. Et donc, si on veut s'améliorer comme gestionnaire, comme humain, comme parent, comme prof, ben, il faut accepter qu'on va apprendre et cumuler un grand nombre de petites erreurs, de petits échecs tout au long de sa carrière. Et on peut appeler ça ultimement l'expérience dans une certaine mesure.
Donc, vous êtes en accord, Francis, pour dire que si on est en mesure, on a la capacité de rebondir après un échec, ça fait en sorte qu'on est probablement un meilleur gestionnaire ou on a de bonnes compétences en gestion.
C'est sûr et certain, puis c'est vrai du point de vue individuel que cette capacité de rebond, elle est elle est directement liée à notre capacité de faire des meilleurs gestionnaires, des meilleurs leaders, mais c'est vrai de manière collective aussi. Si on est capable de tirer parti des échecs individuels pour améliorer le collectif de gestionnaires, le collectif de leaders, encore une fois, que ce soit à l'échelle d'une école, d'un centre de formation scolaire, de l'ensemble du Québec ou du monde, plus on va être capable de prendre les individus qui sont dans des situations où ils font des erreurs, ils font des échecs, de socialiser ces situations-là de manière non dramatique et d'en tirer l'apprentissage, plus on va progresser rapidement. C'est vrai dans n'importe quel sujet, en santé, en éducation, dans la lutte au changement climatique, il faut échouer plein de fois jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui fonctionne.
Avec nos invités gestionnaires, Marie-Claude, Patrick, c'est un thème qui peut être délicat à aborder. D'ailleurs, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça demande quand même d'aller au-delà de certains principes et de s'ouvrir aussi. Alors, vous avez accepté de nous livrer votre vision pour ce balado en contexte professionnel sans vous demander d'énoncer nécessairement des anecdotes, des exemples précis. Quelle posture, quelle attitude avez-vous développée face à une situation d'échec?
En fait, la situation d'échec, je pourrais dire que c'est ce qui a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, parce que si on ne fait pas d'échec, il n'y a aucun apprentissage. Si on ne prend pas de risque, il n'y a aucun apprentissage. Donc, ma carrière a été bâtie la plupart du temps en essayant des choses. Puis je pense que c'est la vision en tant que gestionnaire qu'il faut avoir. Si on a peur que nos équipes essaie des choses, on vient de limiter de perfectionner notre équipe, de faire évoluer notre équipe. Moi, quand mes employés, on se lance dans un projet, je lui mets trop de barrières pour empêcher qu'ils puissent développer les idées qu'on a, l'idée, elle va peut-être être efficace, mais elle sera pas efficiente. Fait que je pense qu'il faut vraiment y aller toujours en ce sens-là, d'accepter l'échec, de prendre l'échec sur nous aussi en tant que gestionnaire et de faire évoluer chacun des dossiers qu'on peut avoir.
Marie-Claude, pourquoi avoir accepté l'invitation? Il y a une certaine vulnérabilité là, qu'on va démontrer.
Exactement. Moi, ce que je trouvais intéressant de la participation au balado, vous l'avez nommé, c'est de dire que c'est un thème qui est délicat, malgré le fait qu'il soit commun à chacun d'entre nous et qu'il ponctue notre parcours professionnel. Mais de redéfinir le concept de l'échec, de l'erreur, je crois que c'est d'être en mesure de comprendre que ce n'est plus ni moins une occasion de se repositionner dans le cadre de nos responsabilités, d'adopter une posture qui est différente. Et derrière chaque gestionnaire, il y a un être humain. Et le fait de vivre ces situations-là, ça peut s'accompagner, vous l'avez dit, d'un sentiment de vulnérabilité. Qui peut venir semer des doutes sur notre sentiment de compétence, qui vient ébranler nos croyances, qui fait en sorte qu'on a besoin de tourner le projecteur vers soi-même et de redéfinir notre posture. Et à travers l'émission d'aujourd'hui, bien, c'est de dire à nos collègues de partout au sein de la QCS que c'est réellement une opportunité d'apprentissage parce qu'on a tous à apprendre de ces situations-là.
Vous le disiez bien, Marie-Claude, et moi, j'ai le goût de pousser la question à savoir quels sont les gains pour une organisation. Si tout le monde qui est à l'écoute aujourd'hui se dit « OK, c'est beau, j'ai droit », ben, quels sont les avantages à court, à moyen, à long terme de faire preuve d'une certaine vulnérabilité, d'accepter nos échecs, nos erreurs?
Et c'est sûr que le plus grand des impacts va même faire référence à des compétences clés qui est notre capacité d'innover, de faire autrement. Donc, faire autrement, inévitablement, ça nous amène à affronter l'inconnu. Et cet inconnu-là vient avec de l'inconfort parce que selon nos personnalités, que ce soit nous à titre de gestionnaire ou au sein de nos équipes, personne n'a la même aisance à travailler avec des éléments qui vont être nouveaux. Mais si on l'accompagne bien, on va venir développer l'agilité de nos organisations. C'est là qu'on va venir améliorer nos services, qu'on va créer des occasions où on va se réunir autour de projets communs qui vont être plus mobilisants. Donc, c'est normal d'avoir des craintes, mais justement, il faut les normaliser, ces craintes-là. Et je pense qu'il faut avoir une posture où on écoute, on accueille le ressenti de nos équipes, mais on bâtit pour les rendre justement plus confiants. On est en mesure d'identifier les forces de chacun. On travaille avec de la complémentarité au sein de nos équipes. Donc, ça nous amène tout droit vers le changement et l'amélioration de nos pratiques.
Alors, il y a des bons mots-clés là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que ça résonne en vous, Patrick. Complémentarité, bâtir ensemble.
Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment un rôle important en tant que gestionnaire. Puis si on ne prend pas de prise de risque, on garde le statu quo. Puis c'est souvent ce qui fait que des organismes ou des ministères ou des gens qui n'ont qui pas d'évolution dans ce qui se passe là. Donc, je pense que l'échec doit être un passage obligé pour faire évoluer tout ça.
Francis, vous avez le goût de rebondir?
Je pense que clairement, Marc-Claude a mis le doigt sur quelque chose qui est vraiment crucial, puis je l'ai peut-être mal exprimé dans la première partie, mais elle a mieux dit que moi. Il y a une dimension qui est collective à ça. C'est toujours ensemble qu'on est capable de normaliser ces histoires d'erreurs ou d'échecs. Et donc, comme gestionnaire, par définition, déjà, on gère des gens, des choses. On a une possibilité, une opportunité avec l'autre, avec son employé, avec ses pairs, comme je l'exprime dans la première partie, de dire, hey, on va se donner ces règles du jeu-là entre nous. Okay? Quand quelqu'un fait quelque chose qui est sous-performant, en retard, quelque chose, ben, on va ensemble s'asseoir puis tirer parti, même si c'est désagréable, même si ça nous coûte de l'argent, même si c'est sujet à se faire taper sur les doigts, on va essayer de tirer un apprentissage de ça. Puis donc, comme l'expliquait Patrick, ça va nous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Donc, ensemble, on va se donner ces règles du jeu-là pour qu'ensemble, on réussisse. C'est quasiment impossible de mettre en place une affaire de même tout seul. L'enjeu, c'est qu'on a évacué beaucoup ça de l'espace public. On a peur du jugement de l'autre, des politiciens, des journalistes, des parents, de je ne sais trop qui. Donc là, on est tous un peu paralysés, mais ça nous empêche énormément de progresser. Donc, je pense que si le plus on va en parler, le plus on va normaliser ce discours-là dans l'espace public, le plus les pratiques, les actions vont être possible. Et donc, pour moi, c'est ça le message là, qu'on veut porter.
Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise École scolaire. Avez-vous consulté notre calendrier d'activités de perfectionnement qui se trouve sur notre site Internet au www.aqcs.ca? Chaque saison, nous sélectionnons pour vous des formations qui contribuent au développement de vos compétences à toutes les étapes de votre carrière. Si vous êtes membre AQCS, n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques.
On l'a dit à quelques reprises? Ensemble et l'importance de se relever ensemble. Alors, quand on vit un échec, une erreur pour un projet collectif, comment on transforme la situation au bénéfice de l'équipe? Patrick, Marie-Claude, vous l'avez peut-être déjà vécu avec vos propres équipes?
Il faut prendre chaque situation de façon globale. Faut savoir que le gestionnaire, souvent, c'est la personne qui a le plus d'expérience. Donc, si on veut faire vraiment évoluer ensemble un projet, il faut accepter que nos gens qui sont en dessous de nous ont moins d'expérience et qui vont faire des erreurs que nous, probablement, on n'aurait pas fait. Mais si on est toujours là à essayer de corriger toutes ces erreurs-là pour éviter que le projet collectif ne fonctionne pas, mais nos équipes évolueront pas. Donc, c'est vraiment important de laisser faire les erreurs à nos employés, qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait pour que la prochaine fois, ils ne le fassent pas. Alors que si on était toujours en train d'intervenir en arrière puis de tout corriger ce qui se passait, mais c'est clair que nos équipes ne deviendraient pas efficientes, ils ne deviendraient pas efficaces à faire évoluer des projets. Donc, je pense que tout est collectif.
On innove aussi de ce côté-là. Marc-Claude?
Je crois qu'il faut faire preuve d'indulgence. Il faut avoir une communication ouverte. Il faut que notre style de gestion intègre au quotidien ces éléments-là où on est dans la transparence, on est dans notre capacité de rebondir, redéfinir les perceptions qu'on a autour de nous. Effectivement, souvent, l'échec, c'est le reflet du regard de l'autre. Et c'est ce qu'on veut fuir à tout prix parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent nous remettre en question. Nos équipes, face à leur équipe de gestionnaires, peuvent avoir cette même crainte-là. Donc, en étant indulgent, en étant en mesure de dire, bien, entre ton sentiment de réussite à toi, entre ce qui émane de tes propres exigences professionnelles et personnelles et ta perception du résultat que tu as obtenu, est-ce que c'est réellement un échec? Ou plutôt, c'est une déformation de ce système-là de croyances que tu portes et qui vient teinter ton sentiment de compétence. Et ce que je nomme là, c'est bon pour l'équipe, mais c'est bon pour nous-mêmes aussi. On a tendance souvent à être davantage les bons joueurs, hein, les bons collègues auprès des autres, mais quand nous, on vit des situations difficiles, il faut s'offrir la même bienveillance. Puis pratico-pratique, je crois que quand une équipe vit un échec, ben justement, il faut prendre un moment pour être capable d'aller se questionner sur les causes qui ont influencé le résultat. Est-ce que les objectifs qu'on s'était fixés étaient réalistes? Est-ce qu'il y avait des angles morts qui étaient inconnus, tu sais, l'environnement dans lequel on a pris les décisions ou on a mis en place les éléments? Le moment où ça a été fait également, les ressources qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc, il faut être capable d'identifier qu'est-ce qui aurait pu être ajusté, fait différemment pour en tirer des conclusions puis s'assurer qu'on aide dans une culture d'amélioration continue et qu'on développe peut-être une opportunité par rapport à cette situation-là. Parce que c'est une étape pour poursuivre, pour continuer.
Donc, Marie-Claude, vous encouragez l'introspection, le post-mortem, la rétroaction. Mais si je vous posais la question à savoir comment on peut intervenir en amont ou pendant le parcours, pendant la démarche, on sent là, qu'on ne suit pas nécessairement la ligne qu'on voulait emprunter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir, pour stabiliser, pour responsabiliser nos gens?
Bien, tout d'abord, il faut absolument impliquer l'équipe dans les différentes étapes d'un projet ou d'un changement à venir. Donc, il faut être en mesure de les amener à exprimer leur opinion, être capable d'aller cerner les éléments où il y aurait peut-être une recherche de solutions dès le départ. Et il faut être en mesure de mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de suivi. Et à certains moments, ben, faire preuve de flexibilité, de dire que le plan qui avait été élaboré au départ, peut-être qu'il ne suivra pas la route où il y a des éléments nouveaux qu'il faut tenir compte. Donc, il faut s'adapter, il faut se repositionner. Puis, vous savez, dans le cadre de la gestion, la confiance et l'engagement, ce sont des concepts qui nous sont accordés. Donc, nous, ce qu'on peut, c'est mettre en place un climat qui va être favorable à générer l'engagement et la confiance. Et ce sont, selon moi, les meilleurs outils pour permettre à une équipe, justement, de prendre des risques, mais du moins d'affirmer son opinion et de contribuer à la réalisation du projet. Et ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer les objectifs, les résultats qui sont escomptés, mais du moins, on a remis en place un processus où on va valoriser l'effort, on va valoriser la contribution des gens. Puis au final, c'est ça qui est important parce que c'est ça qui est transférable d'un projet à un autre.
Patrick? Vous trouvez tellement important d'encourager le potentiel des gens, de ne pas abaisser qui que ce soit.
Bien, oui, effectivement, de faire participer l'équipe au maximum. Tu sais, lancer un projet, là, l'objectif, c'est jamais l'échec. C'est jamais l'échec. Donc, on se doit en tant que gestionnaire, en amont, de placer nos choses aux bonnes places. T'sais, quand on analyse notre équipe, on sait qui a des forces, qui a des faiblesses. Possibilité, oui, des fois, de faire avancer des gens dans des faiblesses pour les faire pratiquer, mais ça dépend quel projet que c'est. Donc, si c'est un projet qu'on veut absolument la réussite, mais c'est de prendre chacun des éléments de notre équipe puis de bien planifier le début de ce projet-là pour que ça puisse fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, mais c'est la rétrospection tout simplement. Là. C'est important de la faire. Et j'aime bien ce qui a été lancé tantôt par Francis au niveau de SpaceX qui fait des essais et des essais et qui réanalyse sachant qu'il va avoir des échecs. Mais je pense que si on veut faire évoluer rapidement les situations, il n'y a rien de mieux que de procéder de cette façon-là, là, d'y aller directement dans l'objectif puis de voir ce qui ne fonctionne pas.
Francis, ça peut être délicat pour certains gestionnaires. Comment on intervient quand on voit qu'on fait fausse route?
Bien, je vais faire tout de suite du millage sur ce que Patrick et ce que Marc-Claude ont dit. Je pense que, à quelque part, il faut se doter d'un système. fait que, tu sais, j'ai parlé beaucoup de la culture depuis tantôt, mais je pense qu'il y a aussi des interventions spécifiques qu'on peut mettre en place. On a parlé depuis tantôt de post-mortem. J'en vois des post-mortem dans ma pratique comme consultant. Les gens font un beau petit PowerPoint, ils font ça sur le midi, puis après ça, ça va mourir dans le fond d'un drive à quelque part. Pour moi, un bon post-mortem, ça doit aller un peu au fond des choses, ça doit être socialisé, ça doit être mis dans l'infolettre. C'est ce que je charrie un peu, mais il faut vraiment en faire une vraie opportunité de regarder le projet qui se termine. Et pour faire ce que vient de dire Patrick, pour faire du ménage là-dessus, il y a même des organisations maintenant qui font des pré-mortems. Et là, Patrick, tu disais, c'est pas tous les projets qui réussissent. C'est vrai, on veut. Bien, c'est pas tous les projets. Quand on lance un projet, on ne veut pas se péter la gueule, vrai. Mais en fait, quand on lance un projet, est-ce qu'on peut regarder tous les projets similaires qu'on a fait dans le passé? Qu'est-ce qui avait de similaire à celui-ci? Qu'est-ce qui a mal allé? Puis qu'est-ce qui va peut-être? Quels sont nos points d'attention pour ce projet-là qu'on lance? Et donc, ça va minimiser la probabilité. Mais pour ça, il faut avoir fait des bons post-mortem les fois d'avant.
Parce que vous êtes en accord avec moi, tous les trois, il y a des gens qui ont de la difficulté à dormir. Si ça se produit dans leur vie, l'angoisse, l'anxiété, le stress, l'idée de ne pas nécessairement être à la bonne place au bon moment, est-ce que je suis réellement un bon gestionnaire? Est-ce que je suis fait pour ça? Ça peut remettre en question des gens complètement.
Absolument. Parce que selon notre personnalité, selon notre niveau de confiance en nous, selon notre expérience, quand on fait face à des situations qu'on qualifie d'échecs, bien, effectivement, ça vient branler la perception qu'on a de nous-mêmes pour certaines personnes. Et ça vient aussi toucher et remettre en question notre crédibilité. Et notre crédibilité dans un poste de gestionnaire, elle est très importante parce qu'encore là, la crédibilité, elle nous est offerte par les gens qui nous entourent. Et ça va être un pilier qui va nous permettre d'influencer. Et cette influence-là, c'est un outil qui est utilisé au quotidien par le gestionnaire parce qu'on met en place des éléments où on structure le travail des gens, on planifie, on les amène justement à nous suivre. Donc, lorsque, par rapport à notre ego, une situation vient chambouler tout ce spectre-là de nos perceptions qu'on a de nous-mêmes, ça peut être très, très, très difficile. Et lorsque moi, je suis devenue gestionnaire, j'étais au sein de l'équipe quelqu'un de très engagé dans mon travail et tout ça. Et lorsque j'ai pris le poste, bien, les gens s'attendaient à ce que moi, j'aie les mêmes exigences envers eux. Parce que de ce qu'on est, on peut envoyer le message de c'est ce qu'on attend des autres. Donc, par rapport à ça, j'ai dû me redéfinir également. Et si on devient humble et indulgent face à nous, par rapport à des situations où on doit se repositionner, bien, on envoie le message aussi aux gens que l'on côtoie professionnellement qu'ils ont ce droit-là aussi de prendre du recul et d'être indulgent et faire preuve d'humilité.
J'ai le goût d'inverser un peu les rôles ici, Francis. Souvent, on est porté à croire comment un cadre peut soutenir son équipe, les membres de son équipe qui font face à un échec ou une erreur. Maintenant, je demande comment l'équipe peut soutenir le moral d'un cadre qui vit une situation plus ou moins facile.
De certaines manières, mais je réitère ce que je disais tout à l'heure, il y a une prémisse qui est qu'il faut avoir instauré ce climat-là dans l'équipe d'emblée. Et donc, je pense qu'il y a dans la relation entre un gestionnaire et ses collaborateurs, ses employés, une notion de réciprocité. Et donc, une équipe qui a vu un gestionnaire les soutenir à travers des moments difficiles, à travers des moments d'erreur, à travers leur propre développement, leur propre apprentissage, vont être beaucoup plus à même d'inverser la situation puis d'aller soutenir le gestionnaire. Ça revient à des notions qu'on a évoquées plus tôt de transparence, d'authenticité, qu'un gestionnaire qui va être distant de ses employés, qui va avoir tendance à dissimuler des informations, à être un petit peu arbitraire, ne peut pas s'attendre d'avoir la réciproque. Donc, c'est comme, j'aurais envie de répondre que ça ne surviendra que très rarement, spontanément, si on n'a pas d'abord fait le travail d'instaurer un peu le terroir là, favorable à ce type de pratique et d'échange. Mais donc, si c'est fait, je pense que spontanément, les employés vont chercher à comprendre, accompagner le gestionnaire dans ces moments difficiles, participer à un débrief. Puis, c'est pas parce qu'on n'est pas nous-mêmes gestionnaires qu'on peut pas contribuer justement à faire un bon post-mortem d'une situation qu'a vécu notre gestionnaire, parce que des fois, on a un angle différent, des fois, on est parti à la situation, des fois, on l'a observé de loin. Donc, j'aurais tendance à dire qu'encore une fois, ça se joue à deux, ce jeu-là.
On parle d'accepter nos erreurs, nos échecs. C'est correct, ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Là, si jamais ça arrive 15, 20, 25 fois, toujours avec la même personne, on a l'impression que la situation est similaire. comment on peut intervenir quand c'est trop fréquent?
Ça dépend de l'erreur. Et après, ça va être plate ce que je vais dire, mais à un moment donné, une erreur grave qui survient fréquemment avec la même personne, à un moment donné, je le dis souvent, quand il faut changer la culture, des fois, il faut changer les humains. Fait que là, je ne suis pas ici à vous dire qu'il faut mettre personne dehors, mais vous comprenez qu'à un moment donné, quelqu'un qui se refuse de se mettre dans une position d'apprentissage, qui nie en plus faire ça, qui ne participe pas à l'apprentissage, le sien et celui de ses collègues par rapport à une situation donnée, à un moment donné, ça devrait être un drapeau rouge, ça aussi. Donc, je trouve que toute cette conversation-là qu'on a depuis tantôt sur une petite frange de notre rôle comme gestionnaire, ben, elle se traduit aussi dans comment on gère au quotidien là, quelqu'un qui sous-performe, quelqu'un qui commet une erreur fréquente, etc. Donc,
Marie-Claude, Patrick, quelle serait votre limite à accepter l'erreur?
En fait, il faut, on a quand même une position de cadre, puis il faut quand même être en mesure de recadrer quelqu'un qui n'effectue pas le travail comme il se doit. On peut accepter les erreurs pour les gens qui prennent des risques pour faire évoluer des choses, mais il y a quand même toujours des employés qui rentreront pas dans le moule, puis qui vont toujours continuer de faire les erreurs et qu'il n'y aura pas d'apprentissage. Mais là, il faut tout simplement faire notre travail de gestionnaire pour faire que ça se reproduise plus. Et il faut se poser la question aussi, en tant que gestionnaire, est-ce qu'on l'a mis à la bonne position dans l'évolution de ce projet-là? Si cette personne-là est dans une situation qu'elle n'est pas à l'aise et que l'échec est presque inévitable, mais c'est notre rôle de prendre les forces de cette personne-là puis les placer aux bonnes places.
J'abonde dans le même sens que Patrick. Ça fait partie des responsabilités professionnelles qu'on a. Et certaines situations, lorsqu'on a mis en place les éléments pour être capable d'identifier, d'apporter les correctifs, d'offrir de l'accompagnement et que la situation persiste, bien, il faut faire appel aux ressources de notre organisation et peut-être faire preuve de courage managérial en ce sens-là. Et c'est pour le bien de l'ensemble de l'organisation parce que un élément problématique dans une équipe peut rendre l'ensemble de l'équipe difficile.
Pour le mot de la fin, monsieur, dame, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Et Patrick, je vous ai déjà entendu dire que ça coûtait peut-être plus cher à une organisation de ne pas essayer versus les coûts que ça peut engendrer si on vit un échec.
Il y a beaucoup trop de gestionnaires qui aiment le statu quo quand tout va bien, tout roule bien, mais qui ne poussent pas justement. Et ça, mais ça peut aller à des millions et des millions de dollars. On sait qu'on est une des sociétés les plus taxées, mais il faut se poser la question justement. Est-ce que chaque gestionnaire fait ce qu'il a à faire? Est-ce que chaque gestionnaire prend les risques pour faire évoluer les choses? Je pense qu'il faut y penser.
Marie-Claude?
Moi, de mon côté, j'irais avec une finale sur notre capacité à rebondir, comment on peut la développer, autant pour nous que pour notre équipe. Donc, inévitablement, ça demande de l'introspection. Il faut prendre du recul, être capable d'avoir un regard qui est humble, remettre les choses en perspective, ne pas avoir peur d'inviter les gens à s'exprimer sur leur vision de qu'est-ce qui est arrivé, faire les prises de conscience qu'il faut, puis prendre soin de soi si la charge émotionnelle devient trop lourde. Parce que ce qui va être commun à tous au niveau de la performance, c'est notre capacité de se connaître, d'identifier nos forces et de savoir bien s'entourer.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul là-dedans. Francis?
J'aurais envie de vous laisser en vous demandant, dans la prochaine année, là, mettons, là, on est en 2025, là, c'est quoi les erreurs que vous voulez commettre de manière... C'est où est-ce que vous aimeriez vous planter puis qu'est-ce que vous voulez en tirer comme apprentissage? Fait que c'est mon petit mot de la fin.
J'adore ça. Merci beaucoup, Marie-Claude, Patrick, Francis. Et je ne peux passer sous silence une phrase qu'on entend fréquemment, mais qu'on n'a pas mentionnée durant ce balado. Et moi, je vais terminer avec ça. L'erreur est humaine. Alors, si vous avez des idées de thématiques, si vous avez le goût de nous partager des suggestions d'invités qu'on pourrait avoir à nos balades QCS, vous ne vous gênez pas pour nous écrire www.aqcs.ca. Merci à nos trois invités. À bientôt tout le monde. La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise, pour leur soutien dans la production de la série Balada QCS.